Bonjour à tous et à toutes, frères et sœurs, je vous souhaite un très agréable sabbat. Nous avons des enfants, en tout cas si vous avez des enfants, vous savez que tout au long de leur croissance, il vous a fallu exercer de la patience, développer de la patience. C'est simplement la réalité telle qu'elle est, le reflet de cette réalité. Or, qu'est-ce que c'est que la patience? Le mot patience comporte en effet de nombreuses nuances. Il peut y avoir l'attente tranquille de quelque chose ou de quelqu'un qui tarde à venir. Il peut y avoir aussi la persévérance dans l'accomplissement d'un jeu ou d'un loisir compliqué ou d'une tâche longue, difficile, fastidieuse. Et puis il peut y avoir enfin l'attitude morale, la force de caractère nécessaire pour supporter des désagréments, pour supporter l'adversité. Résumer toutes ces nuances en un seul mot, la patience, en une seule définition, ce n'est pas chose facile. En somme, un petit enfant percevra lui-même la patience d'une façon différente par rapport à un adolescent qui, lui, aura déjà bien sûr développé la patience au cours de sa vie et depuis sa tendre enfance. Mais d'une façon globale, ce que nous aimerions voir chez nos enfants, c'est qu'ils apprennent, bien entendu, à attendre, avant d'obtenir ce qu'ils veulent recevoir. Les premières années passées avec nos enfants sont l'occasion de développer leur patience, avec douceur, avec amour. Dès que les enfants comprennent des consignes simples, les parents peuvent effectivement commencer à développer leur patience étape par étape. Avant même l'apprentissage du calcul, les petits-enfants peuvent apprendre déjà les vertus de l'économie. Comment ? Un exemple, en donnant une pièce de monnaie à votre enfant qu'il ou elle doit faire tomber dans une jarre transparente chaque fois qu'une étape a été franchie vers la réalisation d'un objectif particulier. Cela peut être un excellent moyen éducatif pour enseigner plusieurs vertus essentielles, la patience, la persévérance, le courage, etc. etc. Le fait de voir cette jarre se remplir dans la cuisine peut être un réel outil de motivation. Et puis, si vous choisissez ensemble, au bout d'un certain temps, une récompense régulière qu'il ou elle appréciera, achetée au moyen d'une petite somme tirée de cette jarre, imaginez un seul instant la joie, l'excitation de votre enfant. Il existe, bien sûr, beaucoup d'autres moyens d'apprendre à vos enfants à développer la patience. Encore un autre jeu, par exemple, un agenda hebdomadaire avec des petites notes d'encouragement, avec des mots gentils. Remplissez-le d'images, remplissez-le de citations inspirantes, avec des mots gentils, de temps en temps, sincères, que votre enfant appréciera. Montrez-lui que vous l'aimez, montrez-lui que vous l'aimez et vous verrez sa motivation se décupler. Mais vous savez, avec les années qui passent, nos enfants qui grandissent, nous comprenons que la patience signifie, bien sûr, beaucoup plus que le simple fait d'attendre que nos désirs ou leurs désirs soient exaucés. Aujourd'hui, nous verrons plusieurs aspects de la patience selon Dieu. Tout d'abord, comment construire la patience, comment construire avec la patience de meilleures relations. Ensuite, comment développer la patience, ce fruit de l'Esprit Saint, de sorte que nous puissions endurer l'adversité. Et puis aussi, comment utiliser la patience comme une véritable source de réconfort et de consolation. Et enfin, nous verrons comment obtenir plus de patience. Vous avez peut-être entendu la prière de l'impatient. Alors, cette prière de l'impatient dit quelque chose comme « Seigneur, j'ai besoin de patience, et j'en ai besoin maintenant. » Nous vivons dans un monde peuplé de gens impatients, des automobilistes, parfois agressifs, parfois égoïstes, eux-mêmes peu avares de remontrances à l'égard des autres. Eh bien, il en faut de la patience dans un monde comme celui-là, pour conserver nous-mêmes tout notre flegme, pour rester doux, pour rester imperturbable. Il y a dans le monde des pays où le client est roi. comme par exemple ici aux États-Unis, des pays où peut-être la caissière de l'hypermarché ou l'employé dans les rayons, ils sont parfois traités de façon un peu condescendante. Et cela va même parfois jusqu'à voir des comportements plus ou moins arrogants par des clients difficiles ou des clients de mauvaise humeur. Et c'est l'emploi même de ces employés qui soudain se retrouvent en danger à cause des plaintes qui peuvent trouver naissance. J'en ai été moi-même le témoin pendant plus de 10 ans, non pas seulement à mon sujet, mais au sujet de beaucoup de mes collègues qui ont quitté le magasin dans lequel j'étais employé. Dans d'autres pays où c'est plutôt l'employé qui est roi, comme par exemple en France, il faut parfois apprendre à se débrouiller soi-même pour trouver ce qu'on veut au supermarché, ou même, ça se voit aussi, encaisser une réflexion déplacée de la part d'un employé. Et tout cela, eh bien, c'est le service au client qui en souffre. Alors bien sûr, la tendance globale dans chaque pays est quelque part au milieu de ces deux extrêmes que je viens de citer. Mais songez aux conflits de personnalités qui peuvent trouver naissance dans le monde du travail, ne serait-ce que, par exemple, avec vos collègues de travail. Qu'en est-il ? Ignorer ces conflits, ce n'est pas une solution. Et la patience est souvent nécessaire, nous le savons tous, pour tenir le coup. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Vous connaissez sans doute cette fameuse morale de l'une des fables de La Fontaine. Jean de La Fontaine, au XVIIe siècle, écrivait cela. Et la morale de cette fable nous dit effectivement, dans cette fable donc qui s'intitule « Le lion et le rat », ça accompagne une autre morale qui dit dans la même fable « On a souvent besoin d'un plus petit que soi ». Donc patience et longueur de temps font plus que force ni que rage, et on a souvent besoin d'un plus petit que soi. Où l'on voit que la patience dans les deux cas nous aide à construire de meilleures relations humaines. Nous faisons attention à ce que nous disons. Nous sommes plus patients, nous laissons la rage de côté et nous faisons attention aux gens qui sont plus petits que nous ou qui ont l'air plus petits que nous. Un vieux proverbe néerlandais dit ceci: une poignée de patience vaut mieux qu'un boisseau d'intelligence. Autrement dit, l'expérience montre souvent qu'une personne patiente a plus de valeur qu'une personne très intelligente, et qui peut-être, justement, cette personne très intelligente n'aura pas la patience d'attendre le bon moment ou d'attendre l'occasion propice. Léonard de Vinci aurait prononcé les mots suivants. Il aurait dit: la patience est une protection contre les injustices, comme les vêtements contre le froid, car si vous vous habillez davantage à mesure que le froid augmente, il ne pourra plus vous atteindre, il ne pourra plus vous refroidir. De même, vous devez développer, dit-il, votre patience face aux grandes injustices, de sorte que leurs tourments se retrouvent impuissants contre vous. Faire preuve de patience. Faire preuve de patience dans nos relations avec les autres, c'est souvent notre plus grand défi. Mais n'oublions pas que les autres aussi, à l'inverse, doivent faire preuve de patience à notre égard, bien entendu. Bien sûr, la force de caractère joue un grand rôle dans l'exercice de la patience envers les autres. Mais la vraie patience, au fond, la patience profonde, la patience sincère, une patience qui ne se force pas, une patience qui ne nous invite pas à arborer une sorte de sourire de convenance ou à déguiser notre contenance. Non, une patience sincère. Quelque chose qui n'est pas hypocrite. Cette patience sincère et véritable naît en fait d'une profonde motivation. Elle naît de l'amour, elle naît du respect que nous vouons aux autres, du respect d'autrui. Eh bien, si nous parvenons, malgré les insultes, malgré les horreurs que nous pourrions entendre sur notre compte, dans certains cas extrêmes, si nous parvenons à aimer ces individus qui profèrent de telles choses, Par exemple, en pensant au jour où ils changeront, au jour où ils auront une toute autre attitude, ils se souviendront avec honte de ce qu'ils ont dit sur nous, de ce qu'ils nous ont fait subir. Alors oui, oui, si nous arrivons à imaginer ces choses, à penser à ces choses au moment de recevoir ces insultes, alors nous aurons ce manteau de chaleur dont parlait Léonard de Vinci, et nous ne nous refroidirons plus. Nous ne serons plus sujets à cette sorte de gel de nos sentiments, et donc ces tourments, ces choses, se retrouveront impuissants contre nous. Vous savez, en prononçant ces mots et en pensant à ces choses, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée pour notre ancien président de la République française, M. Nicolas Sarkozy, qui était incarcéré il y a seulement quelques jours à la prison de la santé dans le 14e arrondissement de Paris. Il est réveillé chaque nuit par des insultes inimaginables qui ont été enregistrées, qui plus est, depuis des invectives répétées en boucle à différents moments de la nuit pour le réveiller par des individus sans honneur et dont la culpabilité, elle, a été prouvée, contrairement au président de la République. Vous savez, à l'exception du, peut-être, possible, du roi Louis XVI, aucun chef d'État français, aucun chef d'État dans toute l'histoire de France, aucun chef d'État présumé innocent, comme lui l'est, n'a subi un tel sort, ni une telle ignominie. C'est pourquoi je profite de cette occasion pour vous inviter à vous joindre à mes prières pour que le président puisse avoir cette patience, qu'il puisse avoir cet amour, ce désir de pardon fermement gardé dans son cœur, jusqu'au jour de sa délivrance. Évidemment, nous tous, qui n'avons probablement jamais vécu de telles conditions, ni une telle intensité dans le besoin de patience, nous pouvons déjà faire preuve de patience les uns envers les autres, malgré les défauts des uns, les défauts des autres, leurs défauts, malgré nos propres défauts. La première épître de Paul, apôtre aux Corinthiens, chapitre 13, parle puissamment de l'amour. Nous savons que c'est le chapitre de l'amour. Et au verset 4, il nous est dit justement que l'amour est patient. L'amour n'est ni égoïste, ni orgueilleux, ni grossier. Il se préoccupe du bien-être d'autrui. L'amour est le fondement et la patience fait partie intégrante de ce processus. Avoir de la patience ne veut pas dire qu'il suffit simplement d'accepter les abus, les offenses des autres. Il y a un moment donné où il faut dire les choses, où il faut exprimer aux autres que leurs actions, leurs conduites nous blessent, elles nous font du mal, elles nous manquent de respect, elles sont injustes. Mais cela doit toujours se faire, bien entendu, avec amour, avec les bonnes motivations, propres, pures et sans reproche. La patience ne signifie pas non plus rester les bras croisés, attendre que les choses se déclenchent toutes seules, attendre que Dieu ou que quelqu'un d'autre résolve tous nos problèmes. Bien sûr, il faut faire confiance à Dieu. Dieu va régler les problèmes. Mais nous avons, de toute façon, une part à accomplir. N'oublions jamais cela. La patience signifie plutôt que nous sommes prêts à travailler. Nous sommes prêts à travailler aussi longtemps, aussi dur qu'il est nécessaire. Faire notre part pour résoudre les problèmes autant que possible, pour réparer aussi les relations endommagées si tel a été le cas. Une foi profonde et inébranlable en Dieu est aussi nécessaire. Bien sûr, Dieu va faire les choses que nous ne pouvons pas faire. Il est beaucoup plus facile d'être patient lorsque nous comprenons, nous savons, nous avons cette ferme certitude en nous que Dieu, le Créateur de l'univers, voit de toute façon tout ce qui se passe. Dès lors que nous lui parlons, dès lors que nous lui confions nos problèmes, nos soucis, il nous écoute, il est impliqué. Nous pouvons aussi, bien sûr, avoir fait quelque chose qui n'était pas juste. Cela peut arriver. Et si nous lui disons ces choses, si nous regrettons le tort que nous aurions fait éventuellement, si nous lui avons ces choses, bien qu'il le sache déjà, les erreurs peut-être que nous avons commises nous-mêmes. Alors oui, dans l'ensemble, il agira puissamment il fera les choses qui doivent être faites, il fera en sorte que, de toute façon, tout concourt à notre bien ultime. Être patient ne signifie pas abandonner tout bonnement, laisser les choses tomber les bras, se laisser faire. C'est plutôt, au contraire, de s'efforcer de surmonter patiemment les problèmes, de faire notre part, de faire confiance aussi à Dieu pour qu'il nous ouvre la voie là où les efforts humains, nos propres efforts, seraient totalement insuffisants et ne sauraient prévaloir. Dieu est là pour nous aider. Dieu est là pour être l'aide décisive qui interviendra et qui résoudra les problèmes. Faire preuve de patience dans nos relations avec les autres, oui, c'est une formidable vertu, une vertu qui forge le caractère, indéniablement. Mais que se passe-t-il ? Que se passe-t-il lorsque Dieu ne répond pas à nos prières aussi vite que nous le souhaiterions ? Que se passe-t-il si Dieu ne répond pas aussi avec la réponse que nous souhaiterions, au moment que nous souhaiterions ? Nous savons que Dieu est tout-puissant, nous n'avons aucun doute à ce sujet. Nous savons qu'il lui serait facile d'intervenir, d'exaucer nos prières comme nous le lui avons demandé. Nous savons bien qu'il n'existe aucune épreuve, aucun obstacle que nous pourrions rencontrer, qu'il n'ait le pouvoir d'aplanir, en nous aidant puissamment à le surmonter. Alors pourquoi ? Pourquoi ne fait-il pas toujours, lorsque nous le lui demandons ? L'apôtre Jacques nous donne ce point de vue particulier concernant cette question. Il écrit dans son épître, Jacques chapitre 1, au chapitre 1 verset 2, il écrit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Dieu a promis de ne jamais nous abandonner. Il est là, il est prêt à nous aider. Par contre, nulle part dans les Écritures, il ne promet d'exaucer toutes nos prières immédiatement, ni de les exaucer exactement comme nous le souhaitons. Il ne nous a jamais promis cela. Mais la foi exige que nous lui fassions confiance pour savoir ce qui est le mieux pour chacun de nous. Combien de fois avons-nous vu des personnes perdre patience avec Dieu ? Ils estimaient que l'épreuve qu'ils subissaient était injuste. Et peut-être avaient-ils raison. Ils estimaient que les épreuves auxquelles ils étaient confrontés n'étaient pas méritées et n'étaient pas de leur faute. Et en fait, ils n'avaient peut-être rien fait pour créer le problème non plus. Alors, lorsque Dieu n'a pas répondu immédiatement pour résoudre le problème ou leur donner la victoire, eh bien, ils ont décidé que Dieu ne se souciait pas de leur sort. Quelque part, ils ont perdu patience avec Dieu. Ils ont décidé de ne plus attendre son intervention. Et avec ce genre de décision, souvent survient l'éloignement par rapport à Dieu, et même l'abandon d'une vie juste. C'est triste. Puisque Dieu n'intervient pas, eh bien, ils prennent les choses en main. Ils prennent les choses en main sans consulter Dieu, sans lui demander, sans laisser Dieu agir au moment choisi par lui, au moment de la réponse que lui, Dieu, le Créateur suprême, a choisi, a décidé d'apporter, sachant que c'est exactement, cette réponse, c'est exactement la meilleure. C'est précisément la meilleure qui soit dans notre intérêt personnel. Ce manque de patience, cette décision malheureuse de ne plus faire confiance en Dieu, produit le plus souvent des conséquences désastreuses. Pensez par exemple à Abraham. Abraham qui décide d'avoir un enfant de la servante de son épouse Sarah, qui a donné son accord dans l'affaire, plutôt que d'attendre que Dieu leur donne un fils comme il l'avait promis. Je ne me reporterai pas au 15e chapitre de la Genèse et des chapitres suivants, mais nous y lisons certaines des conséquences malheureuses qui s'ensuivirent dans l'histoire d'Abraham. La perspective de Dieu, elle, est parfaite. Dieu voit tout, et en toutes circonstances, Il comprend nos besoins bien mieux que nous-mêmes, bien mieux que nous ne pourrions les comprendre. Jésus lui-même a vécu en tant qu'être humain, il sait ce que nous traversons, il sait ce qui produira vraiment aussi le meilleur en nous, puisqu'il est assis à la droite du Père, il intercède en notre faveur. Il sait ce qui sera le mieux pour nous et pour toute l'éternité. Paul, apôtre, écrit aux Romains, chapitre 8, verset 28, où il nous dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si nous continuons, bien sûr, à obéir à Dieu, à le servir comme il se doit. Cela exige la foi que Dieu veut nous donner, la foi de Jésus-Christ, et cela exige aussi la patience d'attendre son heure, d'attendre notre heure. La patience, nous le savons, c'est l'un des fruits de l'Esprit de Dieu qui est mentionné dans Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Aujourd'hui, la patience est plutôt vue comme une sorte de faiblesse, plutôt que la vertu que nous connaissons. Les gens n'aiment pas attendre. Et si vous avez été dans une file d'attente et que vous avez été surpris peut-être en train de regarder votre téléphone ou en train de rêvasser, peut-être quelqu'un est venu derrière vous en disant « Oh, vous n'avez pas l'air bien pressé, ça vous embête si je passe devant vous et si je prends la place ?» Ça m'est arrivé. Et avec les progrès technologiques, notre désir d'aller plus vite, de parler plus vite, ne plus répondre parce que notre interlocuteur ne comprend pas très bien, ne comprend pas assez vite, bref, notre impatience ne cesse de prendre de la place dans nos vies. Parfois, quand on est pris sous le stress, on se surprend soi-même à se retrouver un brin frustré parce qu'il faudrait 5 secondes pour entrer en connexion avec Internet plutôt que 3 secondes, rendez-vous compte. Et vous savez, cette tendance assez amusante, malgré tout, a tendance aussi à affecter nos relations et notre attitude avec les autres. Nous sommes impatients. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 2, l'apôtre Paul nous dit, bien au contraire, de nous aider les uns les autres, de nous supporter les uns les autres. Nous devons avoir cette attitude de patience et d'amour. Ça ne va pas venir tout seul. Nous savons bien que les occasions ne manqueront pas où, justement, notre patience sera testée. Et nous serons peut-être soit nous garderons notre calme, soit nous manifesterons notre impatience d'une façon plus ou moins violente, enfin, quand je dis violente, d'une façon plus ou moins soutenue, dirais-je. Quand nos interactions les uns avec les autres peuvent provoquer certaines frictions, il nous faut faire attention. Cela peut arriver, y compris entre chrétiens. Reportons-nous maintenant à l'épître de Paul aux Colossiens. Colossiens chapitre 12, chapitre 3, pardon, pas de chapitre 12 dans l'épître aux Colossiens. Colossiens chapitre 3 et le verset 12. Colossiens chapitre 3, verset 12. Où Paul écrit, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Le pardon est intimement lié à la patience. Et donc ces deux passages que je venais de mentionner, Éphésiens chapitre 4, verset 2 et Colossiens chapitre 3, verset 12, nous montrent comment le Saint-Esprit agit en nous. Ou encore parfois, comment il devrait agir si nous le laissons faire. Est-ce que nous laissons le Saint-Esprit agir en nous? Est-ce que nous lui résistons? Est-ce que nous passons devant lui pour essayer de manifester notre impatience? Nous devenons, si nous faisons attention à ces choses, nous devenons une créature nouvelle, sous l'influence du Saint-Esprit. Laissons l'influence du Saint-Esprit de Dieu nous changer. le Saint-Esprit de Dieu en nous, celui que nous avons reçu au moment du baptême, par immersion, après imposition des mains par le ministère de Jésus-Christ, nous devenons un fils de Dieu, nous devenons une fille de Dieu. Mais nous devons cultiver ce Saint-Esprit en nous, nous devons en prendre soin, nous devons l'exercer, nous devons lui donner sa pleine expression, car nous ne saurions le prendre pour acquis. Nous devons le développer. Lorsque nous parlons de la patience en tant que fruit de l'Esprit, de quel type de patience est-il question ? De quel type de patience est-il question ? La patience de l'Esprit de Dieu. Nous devons avoir pour notre prochain une patience et une miséricorde qui reflètent justement celle de notre Père Céleste, celle que notre Père Céleste a pour nous, afin que nous prenions cet exemple. Autrement dit, nous avons besoin de la patience de Dieu, empreinte précisément d'une véritable miséricorde, la miséricorde de Dieu. Autrement dit, nous avons besoin de la patience de Dieu. Il s'agit de supporter les autres, il s'agit de supporter leurs fautes, leurs péchés, les actions irréfléchies qu'ils commettent, soit envers nous, soit envers les autres, et puis de pardonner sincèrement leurs offenses réelles, ou même leurs offenses imaginaires, si notre imagination a tendance à aller un peu trop loin. Parfois, en effet, nous imaginons des choses et des offenses, et nous trompons. Mais au final, il s'agit de supporter les situations, les épreuves, et aussi les traversées du désert, si les choses perdurent, et d'attendre patiemment, d'attendre avec foi que Dieu intervienne pour nous délivrer, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous retrouvons, ces choses ne dureront pas éternellement. Donc soyons patients. Dieu désire que nous lui ressemblions. Cela nous demande un entraînement, comme dans le cas d'un sportif. Mais dans ces circonstances précises, il ne s'agit pas d'entraîner nos muscles physiques. Il s'agit d'entraîner nos forces spirituelles, notre caractère, la croissance de notre caractère dans la grâce, dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dieu se soucie de l'humanité. Il se soucie aussi de son peuple. Il le fait avec compassion, avec miséricorde, avec une patience infinie. Le peuple de Dieu suit effectivement cet entraînement. Il apprend, il se prépare au moyen de cette éducation qui est, je dirais, princière. C'est l'éducation d'un prince, c'est l'éducation d'une princesse. Peut-être, mais surtout pour devenir, avant tout, pour devenir ses rois, pour devenir ses sacrificateurs, c'est-à-dire ses intercesseurs que Dieu veut que nous devenions, pour régner avec Christ le moment venu et au service de l'humanité. Dans ses salutations aux églises d'Asie mineure, l'apôtre Jean écrit ceci, il rend gloire au Christ et il écrit dans Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 6, il écrit « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes les citoyens, les ambassadeurs de son royaume, des intercesseurs qui lui adressent leurs prières, des futurs souverains dans le royaume, non pas pour nous servir, mais pour servir son peuple, le peuple de Dieu. Non pas pour nous imposer aujourd'hui dans la prise de parole, mais pour attendre qu'on nous invite à prendre la parole. Ce n'est pas toujours facile. Nous avons des opinions, nous avons envie, nous sommes émoustillés, nous voulons donner notre avis. Cela demande du temps pour le faire. Cela demande de la discipline, cela demande de la patience. C'est la raison pour laquelle nous avons depuis des décennies maintenant, dans l'Église de Dieu, des clubs d'orateurs. Ici, dans la région de Dallas, nous avons la bénédiction d'avoir et d'être entourés par de nombreux anciens, de nombreux diacres. Il y a beaucoup de frères et sœurs à servir. Et il se trouve que le planning de prise de parole est très serré. Et à l'exception du pasteur et des anciens pasteurs, chacun des anciens, des diacres, des volontaires, orateurs, ne s'adresse à la congrégation que 2 ou 3 fois par an, grand maximum. Personnellement, je n'ai jamais demandé ici à diriger les cantiques, ou à prononcer une sermonnette, un demi-sermon ou un sermon. Je servais pourtant déjà dans cette capacité depuis 10 ans dans l'État du Michigan en tant que diacre, mais il m'a fallu attendre ici plus d'un an avant que l'on m'invite à prendre la parole. À mon arrivée dans le Texas, vous savez, j'ai été, c'était il y a presque 4 ans maintenant, j'ai été plutôt invité par une dame, l'épouse d'un ancien, à venir prêter main forte pour le service des collations après l'assemblée. Et j'étais heureux de pouvoir le faire. Et je continue de le faire. Peut-être un peu moins souvent d'ailleurs, parce que curieusement, le nombre de volontaires a augmenté ces derniers mois. C'est une bonne chose. C'est pourquoi nous devons apprendre, nous autres membres de l'Église, nous devons apprendre dès maintenant à servir dans les capacités, dans les domaines qui nous sont demandés. Ajoutons notre nom sur une liste de volontaires. Tenir un parapluie, tenir à la porte d'entrée de la salle d'assemblée pour accueillir les frères et sœurs, préparer le café, préparer les biscuits, arriver à l'avance pour démarrer le chauffage, aligner les chaises, régler le système de sonorisation, rester plus longtemps aussi pour fermer la salle, éteindre les lumières. Ces choses, nous pouvons les faire. Il y a quantité d'occasions de servir nos frères et sœurs. Servir. Servir et faire preuve de patience, faire preuve de miséricorde envers nos frères et sœurs. Car il nous faut aussi apprendre à pardonner. Toutes ces choses, nous devons les pratiquer. Nous avons l'occasion, de multiples occasions, de pratiquer ces choses. Et nous devrions en être reconnaissants. Nous avons ces occasions pour que nous continuions d'apprendre à connaître les autres, d'apprendre sur les autres et d'apprendre sur nous-mêmes aussi. Nous avons besoin de cela. Apprendre à attendre. Apprendre à cultiver la patience. Il est écrit dans le psaume 130, verset 7, « Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, une chose merveilleuse, et la rédemption est auprès de lui en abondance. » Dieu est l'exemple parfait de miséricorde et de rédemption. Il attend patiemment que nous nous repentions, que nous cessions de nous faire du mal, et de faire du mal aux autres aussi, par la même occasion. Il désire ardemment que nous nous tournions vers lui. Et quand nous le faisons, il promet même de nous aider à nous améliorer, ce qui est extrêmement précieux. Car sans lui, nous n'arriverions pas vraiment à nous améliorer. Demandons à Dieu son aide. Demandons à Dieu sa sagesse, afin de mieux le servir. Tous, je l'espère, nous livrons bien sûr ce combat contre le vieil homme charnel qui est en nous, le vieil homme égoïste, afin de continuer à devenir cette nouvelle création en Christ. Sur notre chemin, nous allons rencontrer parfois de la frustration, des situations. Cela arrivera. Mais Dieu ne nous laisse pas seuls. Il ne nous laisse pas seuls. Il nous aide avec amour et avec une patience infinie. Dans ce processus absolument extraordinaire, il nous permet de devenir comme lui. Il nous permet déjà d'exprimer nous-mêmes cette même patience divine maintenant, envers les autres. Dans Luc, chapitre 17, verset 3, Jésus nous instruit. Il nous instruit puissamment sur ce sujet, sur ce qui nous attend au cours de la semaine, au cours des semaines qui se déroulent les unes après les autres. Et il dit ceci, dans notre vie quotidienne, il dit « Prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le. Si ton frère a péché, reprends-le. S'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant « Je me repens », tu lui pardonneras. » Et c'est ainsi que Dieu agit précisément avec nous. Le péché, nous le savons, c'est la transgression de la loi. Et son amende, c'est la peine de mort éternelle. Il n'y a aucune excuse. C'est la loi. Cette amende est payée par le sacrifice de Jésus, notre Créateur et notre frère aîné, à condition que la personne commence à changer et ensuite qu'elle poursuive ce changement avec courage et avec détermination. C'est notre feuille de route, c'est notre chemin. Et c'est de ce genre de patience et de miséricorde dont nous avons besoin. Si nous n'apprenons pas à acquérir ces choses, Dieu ne nous pardonnera pas non plus nos offenses. Nous devons apprendre à pardonner. Si nous continuons d'acquérir la patience, si nous continuons d'acquérir ces choses, la miséricorde, le pardon, nous montrons en fait au monde l'exemple à suivre de Jésus, le genre de patience et de miséricorde que Dieu a pour nous, et nous devenons, de ce fait, ses vrais ambassadeurs, les ambassadeurs de Christ. J'aimerais maintenant citer quelques passages bibliques qui insistent sur l'importance du réconfort et de la consolation au milieu de l'épreuve de la patience. Reportons-nous pour commencer à Romains chapitre 15, verset 4. Épître de Paul aux Romains, chapitre 15, verset 4. Romains, chapitre 15, verset 4, où Paul écrit ceci. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Dieu n'a pas permis que sa parole inspirée soit détruite. Il a en effet, dans son plan magistral, il fallait bien entendu que sa parole de vérité soit préservée pour notre bien, pour le bien de toute l'humanité. Et les récits de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament sont bel et bien là pour nous enseigner, pour nous fortifier, pour nous réconforter et pour nous transmettre cet espoir de la certitude de l'accomplissement du plan divin. Le livre des psaumes chante la gloire de Dieu, en particulier dans les psaumes 105, 106, 114, et le Dieu merveilleux et tout-puissant qui a créé l'univers, qui a le pouvoir aussi et la puissance de séparer les eaux de la mer, il possède aussi cette capacité tout à fait aisée pour lui de nous aider dans nos ennuis. Dieu, pourtant, aime voir son peuple se consoler les uns les autres. Par exemple, dans le chapitre 40 du livre d'Ésaïe, il déclare au verset 1 « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu ». Il continue au chapitre 49 du même livre, verset 13 « Cieux, réjouissez-vous, terre soit dans l'allégresse, montagne éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple, il a pitié de ses malheureux ». D'où vient la meilleure consolation? D'où vient la vraie consolation? Dieu dit dans Ésaïe chapitre 51 verset 12, Ésaïe 51 12, il dit « c'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du fils de l'homme pareil à l'herbe ?» Dieu insiste, c'est lui qui apporte le vrai réconfort dans nos cœurs. Voyez à quel point la prière, la supplication, pour la délivrance sont des choses importantes. Dieu répond aux demandes instantes de son peuple. Et puis finalement, Paul, apôtre, adresse ses salutations aux frères et sœurs de Thessalonique. Il leur dit que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle, une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 16 à 17. 2 Thessaloniciens 2, 16, 17. Où nous voyons que la lecture, l'étude et la méditation de la parole de Dieu, tous les jours, nous apportent dans nos cœurs une grande consolation. Une part efficace et chaleureuse de réconfort et de consolation. Avec ce réconfort, avec cette consolation, notre patience sera fermée. Elle se construit à l'image de celle de Dieu. Face aux épreuves, nous n'abandonnons pas. Nous n'abandonnons pas. Nous ne commençons pas à dire « Oh, advienne que pourra ». Après tout, toutes ces choses, je préfère les ignorer, ne regarder ailleurs. Non, non, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution du tout. Supportons vaillamment l'épreuve, face à face. Regardons les choses telles qu'elles sont. Et les consolations, les délivrances sont là. Elles sont à portée de prière. Dieu est prêt à nous répondre. Nous allons voir l'effet de sa délivrance. Faisons confiance à Dieu. Il veut entendre nos prières. Il ne prend aucun plaisir à nous voir empêtrés dans des situations compliquées qui demandent justement son intervention. Il ne prend pas plaisir à ces choses. Par contre, il prend plaisir à nos prières. Il veut bien au contraire nous consoler. Il nous éduque dans toutes ces choses qui nous arrivent. Il nous élève patiemment pour que nous-mêmes nous apprenions sa patience. La vie semble devenir de plus en plus difficile. Elle semble aussi devenir de plus en plus exigeante. Elle nous demande, semble-t-il, un montant de patience sans cesse plus important. Avec la famille, avec les amis, avec aussi les passants, les usagers dans la circulation, et aussi peut-être avec nos gouvernements, de tout temps, vous savez, sans doute plus particulièrement maintenant, encore de nos jours, la patience des concitoyens semble de plus en plus mise à rude épreuve. Et puis, j'allais oublier aussi un autre sujet de patience. Il faut que nous soyons patients envers nous-mêmes. Il faut que nous soyons patients envers nous-mêmes. Peut-être avais-je pensé que je pouvais me débarrasser de cette mauvaise habitude que j'avais, et voilà qu'elle montre à nouveau le bout de son vilain nez. Comment faire? Voilà que ça recommence. Il faut de la patience. Il me faut de la patience. Il vous faut de la patience. Nous avons tous des combats quotidiens contre notre nature humaine, notre nature charnelle. Dieu est attentif à ces choses. Il est patient. Il n'oublie pas non plus les promesses qu'il nous a faites. Et il use de patience, nous est-il dit dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9, il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il use de patience envers nous tous. La patience est une qualité qui semble se raréfier dans notre culture. Aujourd'hui, la technologie nous habitue à ne plus avoir besoin d'attendre, tant et si bien que beaucoup d'entre nous dans la société actuelle peut-être n'apprennent jamais à être vraiment patients. Jour après jour, nous consultons nos messages instantanés. Beaucoup d'entre nous, nous contentons de la restauration rapide. Nous commandons de plus en plus sur notre téléphone des articles avec une livraison sous 1 à 2 jours. Peu importe la patience, semble-t-il, il semble que nous pourrions avoir toutes sortes de choses tout de suite, maintenant. Alors, bien sûr, il serait facile de blâmer la technologie moderne pour expliquer notre manque éventuel de patience. Il nous arrive, malheureusement, parfois aussi de manifester notre impatience. Faisons attention à ce que cela ne devienne pas un réel problème de caractère. Il nous faut nous rappeler que Dieu est toujours aux commandes. Dans les situations les plus difficiles, les plus dangereuses, et qu'il y a toujours quelque chose à apprendre de nos épreuves. Donc, réagissons dans le bon sens. Souvenez-vous de David. David avait reçu l'onction royale, mais il dut attendre 15 ans, avant de devenir le roi d'Israël. 15 longues années au cours desquelles il a dû traverser des épreuves difficiles, des tests véritables. David a écrit à maintes reprises dans les psaumes sur la nécessité de s'attendre au Seigneur. S'attendre au Seigneur. La Bible Martin, par exemple, traduit le psaume 27 au verset 14 de cette façon. Psaume 27, 14 dit ceci, « Attends-toi à l'Éternel et demeure ferme, et il fortifiera ton cœur. Attends-toi, dis-je, répétition, à l'Éternel. » David a vécu ces choses, et il a perçu ce besoin en lui-même, car Dieu n'agit pas toujours aussi vite que nous le souhaiterions. Il faut souvent de la patience pour attendre de voir ce que Dieu va faire. Alors, vous et moi, sommes-nous suffisamment patients? Probablement pas. Comment faire? Comment faire? Comment apprendre à développer cette patience que nous recherchons? Voici quelques indices que je souhaite vous soumettre. Premièrement, nous devons absolument chercher à développer de l'intérêt pour les autres, plus d'empathie pour les autres. Lorsque l'impatience commence à se manifester en nous vis-à-vis des autres, il est toujours bon de regarder les choses selon la perspective des autres. Mettons-nous à leur place. En quelque sorte, chaussons leurs chaussures. Cela nous aidera à prendre en compte leurs difficultés, et comme Jésus le faisait lui-même à l'égard de son prochain. Par exemple, nous pourrions, dans certaines situations, ou dans la plupart des situations, toujours prendre la bonne habitude d'accorder le bénéfice du doute. Accorder le bénéfice du doute. Est-ce que les choses se sont vraiment passées comme ça? Est-ce que c'est vraiment l'attitude de la personne? Est-ce qu'elle a vraiment fait ces choses volontairement? Est-ce qu'elle est vraiment responsable de ces choses? Peut-être n'y avait-il aucune intention de nuire. Et cela nous aide à nous détourner, lorsque nous pouvons faire ces choses, cela nous aide à nous détourner des récriminations habituelles qui pourraient prendre naissance dans notre esprit, et à être un peu plus patient envers les autres. L'impatience, c'est la manifestation d'une frustration. C'est ça à la base, l'impatience. Il y a cette obsession que nous n'avons toujours pas ce que nous souhaiterions avoir, ce que nous avions demandé. Cela tarde à venir. Il y a un bouchon sur l'autoroute, il y a la queue à la pharmacie, au guichet, au restaurant rapide. Alors, première chose, que devrions-nous faire dans des cas aussi anodins? Est-ce que je suis aussi pressé que cela? Soyons honnêtes. Est-ce que j'ai vraiment besoin, là, maintenant, d'être suivi, d'être servi dans la minute qui suit? Est-ce que j'ai la possibilité, malgré tout, d'attendre un tout petit peu plus longtemps? Il y a des choses qui sont plus graves et qui sont beaucoup plus pesantes. Mais regardons toutes les prières que Dieu exauce, qu'il a déjà exaucées dans nos vies. Essayons de regarder les choses avec beaucoup plus de gratitude, avec beaucoup plus de reconnaissance. Dans Colossiens chapitre 3, verset 15, Paul, l'apôtre, adresse ses recommandations et ses bénédictions aux frères de Colosse. Et il ajoute, comme pour ne pas l'oublier, il ajoute ces quelques mots, il dit « Et soyez reconnaissants !» Et soyez reconnaissants, comme une sorte d'ingrédient indispensable, comme une chose évidente qu'il faut rappeler et qu'il ne faut surtout pas oublier de mentionner. Prendre l'habitude d'être plus reconnaissant. Nous nous efforçons de regarder davantage ce que nous avons déjà reçu et ce pourquoi nous devrions être reconnaissants. Alors, les choses, cela peut paraître évident, mais lorsque l'impatience nous guette ou la manifestation de l'impatience, c'est le moment déjà de respirer un bon bol d'air frais, en quelque sorte, je le disais tout à l'heure, de faire une pause, de rafraîchir notre esprit en regardant peut-être la beauté du ciel, la tête dans les nuages un petit peu, au lieu d'être concentré sur le problème qui est là, maintenant, ou d'imaginer la splendeur, par exemple, la splendeur du destin de l'humanité, pour ne pas nous laisser aller au découragement, les fêtes de l'Éternel à Jérusalem, pour méditer à ces choses. Vous arrive-t-il de rêver à ces choses, ou d'y penser, ou de méditer plus en profondeur à ce que ces choses sous-entendent, ce qu'elles pourraient effectivement apporter, les détails de toutes ces choses? C'est peut-être artificiel à première vue, quand nous sommes pris dans l'engrenage de nos tracas quotidiens, mais si nous arrivons à faire cela, quelle merveilleuse échappatoire! Quelle merveilleuse échappatoire! Vous savez, au début de mon appel, il y a maintenant près de 40 ans, j'ai fait mon service militaire dans l'armée française pendant un an. Et il était alors trop tard pour moi pour m'inscrire comme objecteur de conscience. Et dans mes moments de solitude ou de stress, En lisant les brochures, la littérature de l'Église déjà, j'essayais d'imaginer à l'époque le temple à Jérusalem, pendant le millénium, et pendant, par exemple, tout le service des gardes, dans la description d'Ézéchiel chapitre 40, 41 et 42. J'extrapolais ces pensées en songeant à de grandioses jardins qui entouraient le temple dans toute sa magnificence, rempli d'animaux sauvages, magnifiques, en bonne santé, mais maintenant dociles et caressés par de jeunes enfants. Quelles merveilleuses pensées! Toutes ces pensées m'accompagnaient dans mes journées. Elles m'accompagnaient avec bonheur, jour après jour, elles me soutenaient, elles me transportaient dans cette perspective d'un monde encore à venir, d'un monde encore futur. Mais pourtant, pour moi, déjà tellement réel, si bien qu'au fond, je finissais très vite par recevoir ce sentiment de paix, ce sentiment paisible, profond, au fond de moi. Jésus a dit, rappelez-vous, à ses disciples de regarder les oiseaux du ciel, de voir à quel point ils vivent leur vie sans souci. Dieu prend soin de ces oiseaux. Et Jésus nous donnait aussi l'exemple de la beauté des lys, en les comparant à toute la gloire de Salomon. Nous pouvons nous rappeler que c'est le Créateur qui a fait ces choses, les oiseaux, les fleurs, la magnificence de ces choses, l'infinie perfection dans les moindres détails, dans les finitésimales. Par conséquent, il prendra évidemment un grand soin, un soin encore plus grand au sujet de ses enfants. Donc apprenons dans nos moments d'impatience à nous détendre en pensant à toutes ces choses magnifiques, à toute cette magnificence de Dieu qui, au final, prépare sa grande famille divine. Ayons ces méditations actives et positives au sujet des promesses de Dieu, des promesses fermes, des promesses véritables. En lisant la Bible et en constatant ce qui est arrivé aux nations d'Israël et de Juda, un destin relativement tragique, le peuple de Dieu, bien avant l'ère chrétienne, nous commençons peut-être à nous demander aussi, à nous poser des questions sur notre propre façon de tester la patience de Dieu. Faisons attention à ces choses. Combien de fois avons-nous échoué à grandir, à croître, à apprendre, à surmonter les obstacles comme nous aurions dû le faire? Combien de fois sommes-nous venus à lui en lui demandant pardon à cause de ces choses notamment, avec ce désir de vouloir changer malgré tout, de recommencer, de continuer à aller de l'avant? À combien de fois n'a-t-il pas, entre-temps, exaucé aussi plusieurs de nos prières, avec bonté, avec amour, avec patience? Combien de fois a-t-il fait preuve de compassion à notre égard, dans l'attente de notre apprentissage, d'une leçon qu'il voulait que nous apprenions et que nous continuons d'apprendre? Combien de fois a-t-il ensuite attendu que nous changions? Pourtant, il est fidèle, il est patient, il est à notre service. Oui, il est à notre service, le Dieu créateur. C'est difficile à croire, mais Dieu nous prépare, Dieu nous sert. Dieu nous sert, lui, le créateur de l'univers. Il est tellement grand, il est tellement bon. En contemplant la patience extrême de Dieu dans nos vies et notre façon imparfaite de la vivre, pécheurs que nous sommes, nous comprenons sans doute mieux le niveau de patience dont nous devrions nous-mêmes faire preuve. Il nous est peut-être plus facile alors d'attendre que Dieu réponde à nos prières, quand nous voyons, quand on considère combien de fois il espérait de nous un sursaut, une réaction, une victoire, un changement. Croître dans la patience, grandir dans la patience, c'est une chose merveilleuse. C'est une chose merveilleuse car au final, nous gagnons en maturité et en qualification. Nous sommes, après un certain temps, à même d'accomplir davantage. Nous croissons, nous grandissons en patience. Nous pouvons accomplir plus, non seulement dans cette vie, mais aussi dans la perspective du monde à venir, quand nous servirons Christ, quand nous servirons toute l'humanité dans la paix et dans la prospérité. L'apôtre Jacques a écrit, je l'ai déjà cité au cours de ce message, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Quel merveilleux processus! Et souvenons-nous aussi que Dieu ne nous soumet pas à des épreuves que nous ne pourrions pas supporter. Il dose ces choses. Infinitésimalement, il a exactement le bon réglage dans tout ce que nous subissons, et c'est merveilleux. Quel merveilleux Père! Dieu contrôle la situation. Il contrôle l'intensité de chaque épreuve que nous subissons. Comprenons ces choses. Il ne permet pas que nos épreuves dépassent certaines limites. Ça, c'est la beauté de l'entraînement de Dieu. Oui, ces choses existent. Dieu les permet pour une raison extraordinaire dans nos vies. Elles nous permettent d'apprendre au bon rythme. Dieu façonne notre caractère, exactement comme le maître potier façonne le vase d'honneur sur son tour de potier. Il est parfait. Dieu enlève toutes les imperfections qu'il voit en nous, dans ce merveilleux but de la famille divine. Grâce à telle ou telle épreuve, Dieu va enlever cette imperfection de notre caractère. Cela peut être évidemment sur le moment désagréable, difficile, parfois c'est intense, la chaleur est insupportable, pensons-nous. Mais Dieu sait que nous pouvons subir ces choses avec beaucoup de résultats favorables. C'est dans les échecs qu'on réussit, nous a dit le président Sarkozy. Et il a raison. Il a raison. Quand nous réalisons la raison de ces opérations divines, d'épreuves et de culture de la patience, cela, justement, peut alléger ces épreuves. Nous comprenons la raison, nous comprenons l'objectif, le but que Dieu a dans son merveilleux plan pour nous élever, pour nous éduquer. Ces choses, dès lors, deviennent plus faciles à envisager. Elles deviennent plus faciles même à surmonter. Elles nous aident à développer précisément notre patience. En conclusion, j'aimerais lire ce que l'apôtre Jacques écrit un peu plus loin, dans le même chapitre, dans Jacques chapitre 1, et cette fois allons jusqu'au verset 19. Jacques chapitre 1, verset 19, il écrit « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, la patience. C'est pourquoi, rejetant toute souillure, rejoutant tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va, oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux et se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. La patience envers Dieu et envers les autres naît de l'amour et du respect que nous leur témoignons. Elle nous permet en définitive de parfaire nos relations avec tout un chacun. Au cours de ce sermon, nous avons vu plusieurs caractéristiques de la patience. Nous avons vu comment construire de meilleures relations les uns avec les autres au moyen de la patience. Aussi, nous avons vu comment ce fruit de l'esprit, la patience, nous permet de développer notre endurance spirituelle. Et puis, nous avons considéré la patience comme une source véritable de consolation, une source de réconfort. Et enfin, nous avons passé en revue quelques pistes de réflexion afin d'obtenir plus de patience. Un dernier verset pour terminer. Dans le même chapitre, remontons au verset 4, où il est écrit « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Ainsi, l'œuvre parfaite de la patience, c'est le perfectionnement de notre caractère, selon l'œuvre de Dieu qui accomplit lui-même toutes ces choses en nous, d'une façon parfaite, sans faillir en rien. C'est toute l'œuvre de notre Dieu Sauveur, l'œuvre de la famille divine que Dieu crée dans le royaume de Dieu qui s'en vient sur terre.